merci beaucoup, vraiment du fond de notre cœur. Vous savez que l'adoration est quelque chose qui est important pour Dieu. Jésus-Christ lui-même a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais ce n'est pas seulement un commandement comme si Dieu était derrière chacun d'entre nous avec un gros bâton pour dire, alors il faut que tu m'adores comme ça. C'est aussi quelque chose qu'il recherche et qu'il aime. Vous connaissez bien ce verset où Jésus-Christ a parlé avec une femme samaritaine, qui lui posait des questions justement par rapport à l'adoration. Et il lui a dit ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il est en recherche et il demande ça ce matin. Vous savez, je crois tous, ça a été quelqu'un a dit là tout à l'heure, peut-être dans une prière, non, je crois que c'est notre frère dans son témoignage, il y a 150 cantiques. Ce sont des psaumes. Les psaumes sont des cantiques. C'est le plus long livre dans toute la parole de Dieu et ça contient des chants. Nous ne savons pas sur quelle mélodie ils étaient chantés. Sans doute, ça dépendait beaucoup de la pensée hein, de chacun de ces chants. Mais c'est le livre le plus long. Ce sont les chants. Et puis, il y a aussi un livre, encore tout un livre, beaucoup moins long, mais qui a toute son importance parce qu'il porte ce titre, le cantique des cantiques. Ce qui signifie que dans la Bible, c'est le cantique qui surpasse tous les autres. Et Dieu a voulu que ce soit dans la parole de Dieu pour nous encourager. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Ézéchias, un des plus grands rois d'Israël, mais il y avait un moment où Dieu est venu lui dire, tu vas mourir. Mets tes affaires dans l'ordre et tu vas bientôt mourir. Et ça, forcément, moi j'aurais eu la même réaction que lui. Il a pleuré. Il dit, oh là là, j'ai commencé tellement de choses dans mon zèle pour l'Éternel et il va abroger tout ça. Et Dieu a entendu ses pleurs. Dieu l'a relevé et il lui a donné encore 15 années de bon et loyal service pour lui. Et qu'a fait Ézéchiel à ce moment-là? Eh bien, il a ordonné qu'on sorte des instruments et qu'on chante et on loue l'Éternel. Il était tellement content. Il y a un autre épisode dans la Bible, il y en a plein, mais j'ai pensé à celui-ci parce qu'il y a un tout autre sentiment qui est là. Il y a Jésus-Christ avec ses disciples, juste quelques heures maintenant, avant d'aller vers le Gethsémané, et puis vers la croix. Qu'est-ce qu'il a à cœur de faire? Chanter. Vous vous rendez compte? Il y en avait un qui pleurait parce qu'il devait mourir. Et Jésus-Christ, en allant sur la croix mourir pour nos péchés, eh bien, il a chanté certains des cantiques dans la Bible, dans les psaumes, à l'Éternel. La musique, l'adoration, les chanteurs aussi, les compositeurs sont très importants dans la Bible, ont toute leur place. Et il y en a un auquel nous ne pensons pas souvent. C'est celui de qui on parle ce temps-ci, c'est Moïse lui-même. On a plutôt l'habitude de penser à lui quand il est devant le pharaon, il lève la main, et puis il y a les plaies après plaies hein, qui sont opérées par l'Éternel sur l'Égypte. Ou encore quand il est monté sur la montagne, recevoir les 10 commandements. On pense à lui dans ces moments-là, mais saviez-vous qu'il était aussi un grand chanteur? Ah oui, c'était quand même un grand chanteur et j'aimerais voir cet aspect de sa vie ce matin avec vous. Vous savez, on peut dire que la musique que nous écoutons, la musique que nous entendons, révèle qui nous sommes. Ce que nous avons vraiment sur le cœur. Alors quand Moïse y monte sur la montagne, il reçoit les 10 commandements et il les transmet au peuple, nous savons ce que Dieu attendait de son peuple. Mais quand Moïse prend la plume pour écrire ses sentiments nous savons ce qui est dans son cœur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui revient souvent dans les chants contemporains? Eh bien, j'ai trouvé un site sur l'Internet, un site littéraire plutôt, où justement on regarde toutes les paroles des différents chants, et ils ont découvert qu'il y a plusieurs thèmes qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Par exemple, la maturité, un jeune qui grandit, il s'approche de l'âge adulte, et il est dans le fleur de l'âge, alors il chante. Il y a des chants qui parlent de cela. Et aussi la mort, c'est l'autre bout, mais ça vient souvent aussi dans les chants. Il y a la désillusion, ou le mécontentement, la frustration qu'on peut sentir parfois dans la vie. Et ça, on entend également dans certains chants. Le féminisme de nos jours, oui, ça revient souvent. L'amitié, voire l'amour. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous ce matin? Quelques-uns. Dois-je puiser aussi la sexualité? Ça revient. Tout ce domaine-là vient souvent dans nos chants aujourd'hui. Mais il y a aussi les chagrins d'amour. Et on le chante. Ce sont les choses qui viennent souvent dans la musique populaire aujourd'hui. Et Moïse, qu'est-ce que lui, il avait sur son cœur lorsqu'il prend la plume pour écrire des chants et pour chanter? Quelles étaient ses convictions? Et bien, on va les voir. Parce qu'il y a, ça m'a surpris, peut-être vous aussi, il y a quatre chants, quatre cantiques qui sont attribués à Moïse. Le premier, on va le voir dans un instant, est dans Exode chapitre 15. Le deuxième, dans Deutéronome 32. Le troisième, dans le psaume 90. Et le quatrième, dans Apocalypse chapitre 15. Donc, presque d'un bout à l'autre extrémité de la Bible, nous découvrons quoi? Eh bien, des cantiques de Moïse. Regardons-les un instant, pour connaître mieux cet homme, Moïse, et son cœur. Le Exode chapitre 15 est un hymne de louange à l'Éternel. Dans le psaume 103, il est question, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui, dire du bien de l'Éternel. J'ai pensé, quand tu as dit ça, Christian, au fait que lorsque nous bénissons l'Éternel, nous pensons à ce que nous savons de lui par ses bienfaits, hein, parce que nous lisons dans la Bible, mais les choses qui sont déjà établies. Mais lorsque Dieu nous bénit, il dit du bien de nous, c'est pas les choses qu'il sait déjà de nous, mais ce qu'il va créer en nous et les promesses qu'il a faites pour nous. Mais nous pouvons bénir l'Éternel, et c'est ce que fait Moïse ici, dans le chapitre 15 de Moïse, et là on le découvre, il est rempli de joie, vraiment, et de reconnaissance envers l'Éternel. C'est pas étonnant, 40 ans plus tôt, il avait eu cette grande ambition d'être le libérateur de son peuple, mais ça n'a jamais pu se réaliser. Ça s'est resté comme un chagrin peut-être dans son cœur. Il avait essayé, mais il a dû fuir l'Égypte sans avoir libéré personne. Et donc ça s'est resté dans son cœur. Et puis, pendant tout l'intervalle, quand il avait 40 ans, et maintenant il a 80 ans, quand il écrit ce chant, dans l'intervalle, il a dû reconstruire sa vie. Et il n'est plus le jeune, fort prince de l'Égypte, hein. Il est maintenant l'humble berger qui est derrière les troupeaux, dans le désert. Et il devient un berger nomade. Et puis Dieu intervient dans sa vie. Et on a vu ça il y a quelque temps, lorsqu'il rencontre l'Éternel au buisson ardent et qu'il entend la voix de l'Éternel. Et Dieu veut l'envoyer finalement pour réaliser ce qu'il n'a pas pu le faire par lui-même auparavant. Mais là, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'on va me reconnaître? Ça fait 40 ans. J'étais parti jeune homme, habillé, sans doute coiffé, etc., comme un prince en Égypte, et je reviens un vieillard, 80 ans. J'ai beaucoup changé. J'ai même pas le même esprit qu'avant. Est-ce qu'on va me reconnaître? Et surtout, est-ce qu'on va m'écouter? Est-ce qu'on va me suivre? Malgré tout, ses aspirations sont restées intactes. Il avait toujours ce désir de faire sortir ses parents et ses frères juifs de ce que la Bible qualifie de leur fournaise en Égypte. Et surtout, il a dans son oreille toujours les promesses de l'Éternel. Dieu avait promis, oui, il va y avoir 400 ans que le peuple allait rester en Égypte. Mais au bout de ce temps-là, je vais venir, je vais les faire sortir, et le jour est venu. Ça m'a fait penser au moment où finalement Jésus-Christ est venu dans le monde. Imaginez-vous, il y avait quelques personnes qui l'attendaient, hein, quelques personnes qui regardaient bien les Écritures et qui attendaient sa venue. Et entre autres, il y avait cette vieille dame, comment elle s'appelait encore? Anne, dans le temple. Et elle aussi, elle devait avoir à peu près le même âge que Moïse, quand il a écrit ce cantique. Je ne sais pas si elle était courbée d'âge ou quelque chose comme ça, mais ça faisait longtemps qu'elle se réunissait avec certains croyants qui étaient là dans le temple. Et chaque fois, ils ouvraient les Écritures qui disaient, « Il va venir, il va venir, il va venir. » Et un jour, elle va au temple. Il était là. Et le mieux qu'elle ait pu le faire, elle se dépêche pour aller retrouver ses amis et pour dire, il est là. Ça fait combien de temps que nous attendons le retour de Jésus-Christ? Et qu'est-ce que nous disons encore aujourd'hui? Il va venir. Peut-être ce soir, nous retrouverons ailleurs, en sa présence, et nous nous dirons, il est là. Et là, Moïse, il a toujours ses promesses de Dieu dans son oreille, et il attend que Dieu vienne libérer lui, non pas lui-même, mais que Dieu lui-même libère son peuple. Et Dieu est toujours fidèle à ses promesses, alors il agit. Il a agi dans un premier temps pour mettre à genoux cet orgueilleux pharaon, cet obstiné de pharaon, mais aussi pour mettre sur pied son peuple, qui était courbé jusque-là sous les fouets de l'esclavage. Et ils ont pu commencer le trek à travers le désert vers la terre promise. Fantastique, mais ils n'avaient même pas encore atteint la frontière de l'Égypte, que déjà, ils regardaient derrière eux, ils ont remarqué quelque chose. Eux qui avaient une seule pensée en quittant l'Égypte, c'est la terre promise. C'est ce pays où coule le lait et le miel, comme on dit. Ce pays où chacun devait pouvoir se reposer sur sa vigne et son figuier. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, il voit que ces redoutables bataillons de chars de pharaon se dépêchent pour les rattraper. Ils étaient pris au piège, hein. Il y avait le désert des deux côtés, il y avait la mer rouge devant eux, et les Égyptiens qui viennent derrière, et le peuple commence à avoir vraiment peur. Et c'est là où Moïse leur a dit quelque chose, il dit « ne craignez rien ». Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Ne murmurez pas. Et effectivement, Dieu a commencé à faire quelque chose dans la soirée et dans la nuit, un vent. Et d'ailleurs, dans un texte que nous lirons juste dans un instant, ce sera plus qu'un vent. Ce sera un orage terrible, terrible, qui va venir sur la mer Rouge et qui va repousser les eaux de la mer Rouge, ouvrir un chemin Et le peuple d'Israël va pouvoir passer à sec à travers tout cela. Mais plutôt que de l'écrire moi-même, je préfère qu'on le lise dans la plume d'un autre chanteur. Parce que c'est dans un psaume, le psaume 77, que nous lisons cette description de ce passage de la mer Rouge. Là, je cite, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu ? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les autres t'ont vu, ô Dieu. Les autres t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nues. Et les flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et de Aaron. Formidable. Et si bien que le lendemain, alors ils ont passé toute la nuit à traverser comme ça. Ça a dû être. Et il y a des personnes qui pensent que ce chemin n'était pas petit comme dans l'image derrière là, mais ça devait faire des kilomètres et des kilomètres pour faire passer plus d'un million de Juifs pendant les quelques heures de la nuit. Mais il n'empêche que le lendemain matin, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont regardé derrière eux. La mer a retrouvé son calme et il ne restait que les débris des ennemis vaincus. Dieu est grand, mes amis. Il est très grand. Il est libre. Et je comprends dans tout ça pour dire dans quel contexte Moïse s'est trouvé lorsque, c'était le lendemain matin, c'était quelques instants après, qu'il s'est mis à chanter. À chanter la gloire de l'Éternel. Et si je peux le résumer en quelques mots, moi je dirais béni soit Dieu, notre Rédempteur, parce qu'il appelle Dieu son Rédempteur. Et quatre fois dans le livre de l'Exode, cette délivrance d'Israël est qualifiée de rédemption. Pas seulement quatre fois dans l'Exode, mais 19 autres fois, 23 fois en tout dans l'Ancien Testament, la délivrance d'Israël est qualifiée de rédemption. Et là, c'est un mot que nous connaissons, n'est-ce pas? Parce que le mot rédemption signifie que quelqu'un nous a délivrés d'un grand danger au prix que lui-même était prêt à assumer. C'est Dieu par la force de son bras et en remuant toute la nature qui a délivré son peuple. Mais c'était une plus grande délivrance quand il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre. Et il a accepté d'aller à la croix pour vous et pour moi, afin de nous délivrer de nos péchés et du jugement à venir, que nous méritions. Alors, quand il a commencé à chanter à son Rédempteur, je pense que nous aurions pu, si nous avions été avec lui, chanter les mêmes paroles quand il a dit « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ?» Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par la puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et y tremblent. Par exemple, les chefs des dames s'épouvantent. Un tremblement saisit aussi les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront par la grandeur de ton bras. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce qu'ils soient passés. Le peuple que tu as acquis, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Et c'est là où on rejoint ce que Christian a dit tout à l'heure. Dieu prépare une place pour nous dans la maison du Père, dans la Nouvelle Jérusalem. Il nous conduit vers sa demeure. Où suis-je, je rappelle. Au sanctuaire, Seigneur, que Dieu a fondé, l'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Voilà le chant qu'il a chanté ce matin. Je pense qu'il n'a pas chanté un peu comme « Que tu es grand Seigneur, que tu es... » Je pense qu'il a sauté, il a crié. Nous savons que ça se met rien, n'est-ce pas? Elle a amené les femmes un peu plus loin, avec des tambourins, etc. Elles se sont données vraiment à cœur joie, n'est-ce pas? Mais bon, je suppose que tout ça, c'est une question de tempérament. Mais là encore, ça m'a fait penser à un autre moment que Jésus a vécu dans le Nouveau Testament. Et qui était un peu gênant pour celui qui avait invité Jésus au dîner. C'était un pharisien, quelqu'un qui était censé bien connaître Dieu. D'ailleurs, il s'appelait Simon. Il invite Jésus chez lui. Jésus vient, ils sont en train de manger, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui entre et qui fait quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et le pharisien, quand il voit ça, bon, il est gentil et poli, hein. Il n'allait rien dire sur Jésus, c'est lui qui l'avait invité chez lui. Mais il pensait tout de même dans son cœur, « Oh là 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 là, si Jésus savait qui elle était, cette femme-là, il n'aurait jamais accepté qu'elle le touche. » Et puis Jésus, il a répondu en disant à cet homme-là, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, Simon, et tu n'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Nous pouvions faire ça aujourd'hui, même avec nos masques. Hein, on fait check-check avec nos pieds. Elle a vraiment fait. Hein. Elle a essuyé ses pieds. Elle n'a pas cessé d'embrasser ses pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, il dit à Simon, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Il donne l'explication. Pourquoi elle fait cette chose absolument extraordinaire? Parce qu'elle savait que ses nombreux péchés avaient été pardonnés. Elle a beaucoup aimé à cause de cela. Mais celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Il aime peu. Si on devait mettre sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous mettriez votre amour pour Dieu ce matin? 1, 2, 3, 10. De toute façon, c'est sans doute pour aucun de nous suffisant. C'est en deçà de ce que Dieu mérite. Mais que nous aimions de plus en plus. J'aimerais vous poser une question. Lorsque nous chantons, est-ce que nous faisons quelque chose d'extravagant comme cette femme? Je donne ma réponse. Hein? Oui. Et j'espère que lorsque la chorale, les musiciens là nous aident dans nos chants et que nos cœurs sont portés vers l'Éternel, il y a quelque chose de sincère et vrai, parce que les vrais adorateurs que Dieu cherche sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, qui s'élèvent de notre cœur. Vraiment cette adoration, et que nous puissions le qualifier d'extravagant. Moi j'aime bien, je devais couvrir ma bouche un petit peu, parce que je me laisse tenter des fois pour chanter une autre voix et des choses comme ça qui me viennent à l'esprit. J'espère que je gêne personne. Mais, en tout cas, est-ce qu'on est extravagant? Est-ce qu'on est prêt? C'est vrai que Moïse, il avait ce talent de chanteur et de compositeur. Il le faisait par les chants. Alors que cette femme, probablement, elle n'avait aucun don musical, mais elle a trouvé un moyen à sa portée. Et je sais que lorsque nous adorons Dieu, il y en a qui préfèrent rester assis. Mais c'est tout aussi sincère. Et il y a d'autres, vous nous demandez de chanter les louanges à l'Éternel assis, c'est pas possible. Et non pas seulement ils doivent se mettre debout, mais ils lèvent les mains, ils bougent, et moi je bouge aussi un petit peu. Hein. Mais ça c'est quelque chose de personnel. Hein. Et on ne peut pas imposer notre façon de faire sur les autres. Il faut que ça ne devienne pas dans dehors de nous-mêmes, comme une imposition, mais que Dieu élève dans notre cœur. Et il aime ça. Il aime quand nous l'adorons. Le chant de Moïse nous rappelle que notre rédemption est une œuvre de Dieu seul, comme la délivrance de l'Égypte. Cette œuvre est parfaitement achevée et elle nous promet un avenir sans crainte. Et donc c'est pour cela qu'il loue l'Éternel. C'est pas le seul de ces chants, il y en a d'autres dans Deutéronome chapitre 32. Alors là, le registre change complètement. C'est pas étonnant, c'est pas Moïse qui l'a écrit celui-là. C'est Dieu qui l'a écrit. Et il a donné à Moïse, il a dit, voilà, toi maintenant, tu dois l'enseigner à Israël. Il faut qu'il le fredonne au fil des siècles et que ce chant reste comme un témoignage en ma faveur. Alors, le contexte historique est différent. On est encore 40 ans plus tard. S'il avait 80 ans lorsqu'il a écrit le premier, je ne sais pas s'il en a écrit d'autres entre-temps, mais le deuxième arrive quand il a bientôt 120 ans, sinon déjà révolu. Il est sur le point de mourir, il va bientôt mourir. Il transfère aussi la direction du pays, de la nation, à son lieutenant, en fin de compte, Josué. Et c'est là où il va monter sur le mont Nebo. Dieu lui permettra de voir de loin seulement la terre promise et Dieu va lui donner aussi ce cantique à enseigner, dans lequel il ne voit pas le pays, mais il voit le cœur infidèle de son peuple. Écoutez ce qu'il dit dans les versets qui précèdent le texte de ce chant. Deutéronome 31:16, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera, se prostituera aux dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. » Un jour, je vais préparer toute une série de messages sur les passages dans la Bible que j'aurai préférer ne jamais lire. Ça devait être terrible d'entendre ça. Hein? Quelque chose d'absolument terrible. Mais dans ce cantique, Dieu, en effet, il appelle toute la création et toutes les nations à observer sa façon d'agir envers Israël à travers les siècles et d'en témoigner, d'être des témoins et d'échange pour lui, qui avait déjà créé Israël. Voilà ce qu'il dit au verset 6. N'est-il pas l'Éternel ton père, ton maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Oui, toute la création et les nations pouvaient le dire. N'est-ce pas lui aussi qui allait lui donner un héritage? En héritage, la terre promise, bien sûr. Il dit, il t'a fait monter. Bon, il écrit ici, dans un temps passé, mais le temps passé dans les textes prophétiques ont souvent une portée future. Et il révèle qu'il allait faire monter le peuple sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il a fait sucer du miel du rocher, lui qui sort du rocher le plus dur. Oui, la nature pouvait témoigner de cela. Et puis Israël allait, malgré tout, se détourner de l'Éternel et même aller jusqu'à rendre Dieu responsable pour les maux qui lui tombaient dessus. Je sais qu'Israël est devenu gras, Ouais, on lui a donné un pays. Ils vivent dans les maisons qu'ils n'ont pas construites. Ils récoltent des champs qu'ils n'ont pas semés. Et ils sont là, vraiment contents. Mais c'est alors qu'ils oublient l'Éternel et ils rejettent contre lui. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse? Demande ce cantique. Eh oui, Dieu allait forcément, par fidélité à son alliance, il allait châtier son peuple, mais par souci de sa propre gloire, il allait le rétablir après. Et regarde comment il dit cela dans ce cantique. C'est Dieu qui parle. Il dit, je voudrais dire, on voit vraiment le cœur de Dieu, je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissant. Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Je voulais qu'Israël comprenne et que toutes les nations aussi, que ce qui allait tomber un jour comme châtiment sur Israël était l'œuvre de sa main, non pas des leurs. L'Éternel jugera son peuple, dit ce cantique, mais il aura pitié de ses serviteurs. En voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il fait expiation pour son pays et pour son peuple. Oui, en fin de compte, il appelle toutes les nations et toute la création à reconnaître, comme son peuple devait un jour le reconnaître à travers ce chant, que Dieu, il est toujours juste. Il va être toujours fidèle à sa parole. Mais il fait grâce. Il fait grâce. Je ne sais pas pour vous, je suis peut-être le seul ici dans la pièce qui a besoin de sa grâce.
Ça vous arrive d'avoir besoin de la grâce de Dieu?
Est-ce que vous êtes, à la différence d'Israël, toujours et 100% fidèle à l'Éternel? Oui, nous avons tous besoin de sa grâce et c'est ce qu'il voulait que Israël sache et qu'Israël la craigne à travers ce cantique. Moïse, vous savez, c'était quelqu'un qui était toujours sensible à la justice. Et je ne vois personne d'autre dans toute la nation qui était mieux à même de recevoir ce message de l'Éternel et le transmettre aux autres. N'était-il pas celui qui avait défendu un de ses frères, maltraité par un Égyptien, au point même de tuer l'Égyptien? Bon, sans doute, il a agi dans une passion, mais une passion pour la justice et pour ses frères. Est-ce qu'il n'a pas défendu les filles de Jéthro devant les bergers méchants aussi, hein, qui les repoussaient, et ça durait longtemps, ces pratiques-là? Et quand il est arrivé, il a voyé ce qui se passait, il s'est levé tout seul contre je ne sais pas combien de ces bergers-là, et les a chassés pour que les filles de Jéthro puissent abreuver leur troupeau. Il ne savait pas à l'époque qu'une de ses filles allait devenir sa femme dans la Bénédiction, donc ce n'était pas de manière intéressée qu'il a fait. Mais il avait ça en lui. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait vu la grâce de Dieu, grâce de Dieu envers lui, lors de son appel. Il s'était déçu lui-même de ce qu'il avait fait en tuant l'Égyptien et en devant partir. Et peut-être il s'est dit, mais c'est fini maintenant, Dieu ne veut plus se servir de moi, ou il ne veut plus que moi je le serve. Est-ce que ça peut nous arriver aussi d'avoir de telles pensées? Oh, Seigneur, tu sais qui je suis, hein? Tu connais tout mon passé. Comment est-ce possible que tu veuilles que moi, je sois ton serviteur? Mais Dieu a fait grâce à cet homme, il a fait aussi grâce au Pharaon également. Hein? Combien de fois Pharaon n'a pas demandé à Moïse, mais prie ton Dieu qu'il a... Il Il arrête ses plaies pour qu'il me pardonne mes fautes. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Mais aussi envers les Israélites à la mer Rouge. Il a ouvert. Il a fait quelque chose qui ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire. Quelque chose de formidable. Là. Il a sauvé son peuple. Vous savez, Moïse, il était convaincu que Dieu est toujours juste et bon. On ne l'est pas nous, mais il est. Quand bien même son peuple, lui, est parfois infidèle. Est-ce que l'infidélité des hommes, même l'infidélité des chrétiens, peut arrêter la fidélité de Dieu? Non. Il sera toujours fidèle. Et je pense que ça méritait bien un cantique. Et peut-être vous pouvez prendre ces paroles dans ce cantique-là, vous pouvez les relire dans Deutéronome 32 à la maison, et puis vous rappeler que Dieu est bon envers moi. Il est toujours bon. Alors, ça fait déjà deux cantiques. Le premier, c'est un chant de louange au Dieu rédempteur. Le deuxième est une espèce de procès verbal que Dieu fait contre son peuple et à sa propre décharge, mais par lequel Dieu apprend à son peuple, vous pourrez toujours compter sur moi, sur ma fidélité, sur mes bontés, sur ma grâce. Maintenant, on arrive à l'autre. Je pense que c'est Christian qui nous a dit tout à l'heure, on peut prier des chants, ou on peut chanter des prières, je ne sais pas comment c'est devenu, mais c'est vrai. Dans le livre de chants par excellence, le livre des psaumes, il y en a un qui est tout entier attribué à Moïse. C'est le seul. Et c'est appelé une prière de Moïse. Et je pense qu'il y a beaucoup de juifs qui l'ont chanté par la suite, et peut-être des chrétiens aussi. Alors le contexte change maintenant. Ce n'est pas aussi clair que pour les deux autres, à quel moment il a composé ça, mais c'était sûrement pendant cette période où Israël a erré dans le désert. Et j'aime bien les images comme ça, je les trouve sur l'Internet. Hein. Je vous dis mes secrets, mais quand on voit les images comme ça, j'ai un peu l'impression, oh, la vie des Israélites dans le désert, ça ne devait être pas si difficile que ça, non, regarde, ils sont tous heureux, tout semble être en ordre dans l'arrière-plan, le camp est bien placé, chacun sait où est sa tente, tout est bien organisé, les familles sont heureuses de travailler ensemble, sans doute ils sont tous obéissants à l'Éternel, n'est-ce pas? Seulement, c'était une génération incrédule et insoumise à l'Éternel, condamnée à mourir dans le désert. Comment est-ce possible? Ils venaient de sortir d'Égypte. Dieu les conduisait vers la terre promise. Comment ça se fait que maintenant c'est une génération perverse? Ben, vous connaissez cette histoire, Dieu les a conduits vers l'entrée du pays, il a dit, entrez maintenant. Eux, ils ont décidé d'envoyer d'abord des espions. Et puis nous lisons ceci dans Nombre chapitre 14, qui est dans le récit de toute cette histoire. Pourquoi, demande le peuple, l'Éternel fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? N'aurait-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et d'ailleurs, ils ont décidé, après une nuit de larmes, ils ont écouté le rapport des espions, il y en avait 12, 10 ont dit, ouais, c'est un bon pays, mais il y a des géants, des villes sont fortifiées, on ne va pas les prendre comme ça. Et les géants sont tellement énormes que lorsqu'ils nous regardent, on apparaît à leurs yeux comme des sauterelles. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'ils ont dit, ils ont dit que, et nous étions à nos yeux comme à leurs yeux comme des sauterelles. Et tout d'un coup, ils se voyaient dans toute leur faiblesse devant ces énormes habitants du pays, et ils craignent. Et ils ont passé la nuit à pleurer. Le lendemain, ils ont dit ça. Et puis, ils ont continué, si l'Éternel, là c'est Caleb et Josué qui ont donné quand même un bon rapport, et qui ont essayé, malgré tout, de les faire changer d'avis. Ils ont dit que si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens du pays. Et comment ils ont répondu, le peuple, malgré cette deuxième intervention des deux espions, eh bien, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple en ce moment-là? Ben, il a dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et c'est pour cela qu'ils ont dû passer 40 ans dans le désert. Une année pour chaque jour que les espions avaient été dans le pays pour voir comment il était. Ils avaient passé 40 jours dans le pays, ils sont venus avec le rapport, et alors, un an, pour chaque jour, le peuple devait errer dans le désert. Et toute cette génération qui était en âge pour comprendre et pour prendre une décision, nous allons suivre l'Éternel, nous allons croire en lui ou pas, ils devaient tous disparaître, faute de foi en l'Éternel. Alors c'est pour cela que, ça c'est le contexte historique de ce chant, cette prière, c'est pour cela que nous lisons dans ce psaume 90, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez, retournez. » Et puis il ajoute ceci également, « Tu les emportes, Dieu, semblable à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. » On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un chant. Et voilà sa prière. Mais heureusement, il n'est pas arrêté là. Il continue en évoquant peut-être ce qui était évoqué dans l'autre image que j'ai montrée tout à l'heure, quand Dieu, suite au murmure de son peuple, il leur a donné du pain à manger, de la manne. Et là, il dit ceci pour terminer sa prière, dans ce psaume 90, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Et voilà, il termine sa prière, son chant, de cette expression de confiance, il se tourne vers l'Éternel et il lui demande ces choses-là. Est-ce qu'il allait voir les réponses de Dieu à sa prière? Non. Il est sur le point de mourir. Mais il prie pour ses générations futures. Et dans cette prière, dans ce chant, on voit que Moïse croyait fermement en Dieu qui est miséricordieux, en Dieu qui ne traite pas les enfants selon les péchés de leurs parents. Et vous savez que lorsqu'on devient un peu plus âgé, nous qui sommes un peu plus âgés, nous avons tendance à nous souvenir de nos fautes d'autrefois et de nous culpabiliser. Et nous pensons, ah, je vois quelque chose chez mon fils, je vois quelque chose chez ma fille, ou chez mes petits-enfants. Oh, ça vient de moi sans doute. Je n'ai pas toujours été un bon exemple. Mais sachez que Dieu ne traite pas les enfants selon les péchés de leurs parents. Il est même un refuge pour ceux qui croient en lui et le suivent. Et c'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, t'es un refuge. Tu as toujours été de génération en génération, et je te parle maintenant des générations futures. Sois aussi leur refuge. Et je trouve que ce vieillard, il a plus de 100 ans, hein, quand il écrit ça, et quand il prie, cet homme grisonnant sur le haut de la montagne, eh bien, je pense qu'il est un exemple pour chacun de nous qui élevons aussi nos enfants et qui nous assure que nous pouvons confier à Dieu nos enfants et petits-enfants. Vous en avez? Vous avez des enfants?
Oui.
Ouais. Plusieurs d'entre nous, nous en avons. Vous avez des petits-enfants?
Oui.
Si je vous posais la question, est-ce que vous avez des sujets de prière par rapport à vos enfants et petits-enfants? Priez. Priez. Dieu entend les prières que ses enfants lui adressent au nom de leurs enfants. Et nous pouvons aussi croire en sa grâce pour nos manquements et éventuellement les leurs aussi. Ça, parce que c'est un Dieu de grâce, un refuge de génération en génération. Et nous pouvons aussi lui demander d'affermir l'ouvrage de nos mères, nous tous, hein, nous, nos petits-enfants, tout ce que Dieu veut faire à travers nous. Eh bien, nous pouvons dire, oui Seigneur, accomplis, affermis cet ouvrage, s'il te plaît. Beau cantique, hein? Beau cantique pour les parents, pour les grands-parents. On en a vu trois déjà. Dans le premier, c'est adressé à Dieu notre Rédempteur, qui mérite pleinement notre amour, notre reconnaissance. Le deuxième, Exode, chapitre 15. Le deuxième, c'est Deutéronome 32. Et là, Dieu mérite notre témoignage de sa justice et de sa miséricorde envers les infidèles. Et nous le sommes tous parfois. Et puis nous venons de voir que Dieu écoute nos prières concernant les générations futures. Et là, parlant de futur, le dernier cantique, et avec ça je m'arrête, le temps est déjà trop passé là, mais il y a un dernier cantique qui est attribué à Moïse, et ça concerne l'avenir. C'est un louange au juge de la terre. Alors la situation, là, est différente. On est vraiment à la fin des temps. Moïse est déjà enterré depuis longtemps. Mais ce chant lui est attribué. C'est un temps que nous appelons tribulation, que le monde qualifie souvent plutôt que l'apocalypse. Dans cette époque qui viendra, c'est peut-être pas trop loin de nous maintenant, je n'en sais rien, mais il y a un personnage qui s'appelle dans la Bible l'Antéchrist, qui va accumuler tous les pouvoirs humains et sataniques. Il aura tout à sa disposition pour dominer le monde, pour se ériger à la place de Dieu, hein? Et puis pour punir ceux qui veulent adorer l'Éternel. Mais Dieu interviendra pour sceller des milliers de Juifs à cette époque-là et assurer que l'Évangile soit encore prêché dans le monde. Vous savez que dans ce temps que nous qualifions d'apocalypse, c'est peut-être l'époque où il y aura le plus de conversions dans toute l'histoire. En tout cas, ça compte par des milliers et des milliers et des milliers. Merci Seigneur, qui est capable de faire ça sinon notre Dieu? Oui, les millions et multitudes seront sauvées. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien. Rien n'est impossible à notre Dieu, et rien non plus ne peut nous ravir de sa main. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 28. Oh oui, Dieu le Tout-Puissant dit, enfin la Bible dit qu'il nous donnera, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Mais ça va être terrible, hein? Mais est-ce que ça vous arrive d'être affligé par les actes de violence que vous voyez dans vos journaux, à la télé, peut-être à la radio aussi, de violences faites aux enfants, aux femmes, aux réfugiés, à ceux qui ont tout simplement votre couleur de peau? Ça existe dans le monde. Et ça vous dérange pas? Je pense que on dirait tous oui. Et peut-être il y a des fois où nous nous sommes demandé quand tout cela allait finalement prendre fin. Et où est Dieu dans toute cette affaire-là? Eh bien, la Bible donne la réponse dans 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, laquelle, celle de retour de son Fils Jésus-Christ, qui reviendra non pas comme un agneau, mais comme un juge. Et il ne va pas tarder, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Est-ce que vous vous êtes repenti de vos péchés? Est-ce que vous avez confessé Jésus-Christ pour votre sauveur? Eh bien, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et puis, c'est ce qu'il cherche. C'est pour cela qu'il tarde, il tarde, ça nous semble, il tarde tellement que on perd un peu l'espoir qu'il ne reviendra jamais. Mais nous continuons à prêcher l'Évangile, mais malgré cela, déjà au temps de Paul, il pouvait dire ceci, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, est-ce que tous reçoivent Christ? Est-ce que tous comprennent? Est-ce que tous? Non, pas du tout. Et alors, il faut, dit la Bible, que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant que Jésus ne revienne, et qu'on ait vu paraître donc cet homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, antéchrist dans l'autre verset, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Et puis il agit, il dit ceci, ce mystère de l'iniquité agit déjà. C'est déjà là. Il a dit ça déjà il y a 2000 ans. Et je pense que nous le voyons encore aujourd'hui. Puis il dit que l'apparition de cet homme impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et cet impie, le Seigneur Jésus, détruira par le souffle de sa bouche. C'est vrai. Dieu est tout puissant. Il ne lui faut pas nécessairement de grandes armées avec des armes incroyables. Il n'a qu'à faire et tout disparaît. Juste un souffle de sa bouche. Et cet homme-là, ben, il va l'écraser par l'éclat de son avènement. Et c'est alors, quand on est sur le point de voir le juste de la terre venir enfin régler toutes les injustices dans le monde et mettre fin à toute cette histoire, que les saints martyrs, ceux qui avaient reçu Christ comme leur sauveur pendant la tribulation, on les voit dans ce chapitre 15, au ciel, autour du trône de Dieu, et ils chantent le cantique de Moïse, il est dit, et le cantique de l'agneau, disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Il faut que je m'arrête. Sinon, je vais devoir ressusciter un mort. Paul, il a prêché jusqu'à minuit passé, d'ailleurs, il a prêché pendant toute une nuit, il y avait un qui est tombé de la fenêtre. Heureusement, on n'est pas à la troisième étage ici. Vous pouvez tomber, ça ne vous fera pas trop mal. Mais je n'ai pas le don de ressusciter des morts. Mais nous avons vu les quatre chants de Moïse, là, qui nous apprennent des choses magnifiques, que je pense, ces choses-là font écho dans notre cœur. C'est que Dieu, il est plus puissant que nos dangers et nos craintes. Les dangers qui nous guettent déjà, les armées de Pharaon et ceux qui sont dans le pays. Dans Deutéronome 32, nous avons vu que quelles que soient nos infidélités, Dieu restera fidèle à sa parole et il fera grâce pour la gloire de son nom. Et un jour, toutes les nations, effectivement, comme nous avons vu dans ce chant de l'agneau à la fin, de l'Apocalypse, toutes les nations vont chanter à la gloire de son nom. Nous pouvons lui confier aussi nos enfants en attendant, mais oui, mais sachant que la victoire de la justice de Dieu est assurée. Et alors pour nous, mauvais bouton, soyons extravagants, hein, sincères, honnêtes, nous-mêmes, et adorons Dieu, chacun de sa façon. Si vous voulez taper dans les mains, vas-y, tapez dans les mains. Si vous voulez rester assis, restez assis. Je connais un cher frère, c'était mon pasteur, dans le temps, je pense qu'il est avec Christ, je ne sais pas comment il agit aujourd'hui, mais dans le temps, c'était un homme très flegmatique. C'est tout juste s'il allait dans une grande compétition sportive et que son équipe, qui finalement marquait le point de la victoire, c'est tout juste qu'il pouvait se lever tout doucement comme ça et dire ah. Vous êtes peut-être comme ça, je n'en sais rien. Mais adorons Dieu de tout notre cœur, mes amis. N'ayez pas peur de le faire en chantant si Dieu vous donne cette possibilité et vous avez ce talent-là. Mais aussi en faisant des offrandes, que cette femme qui ne chantait pas, elle n'est venue qu'avec ses larmes, hein, avec ses cheveux, avec son parfum. Et peut-être c'est une autre façon d'adorer Dieu aussi. Et aussi en l'acceptant comme notre Sauveur et Seigneur, à qui on peut confier nos enfants. À qui on peut se confier, celui qui est le refuge de génération en génération.